petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Il y a un mois, le robot Persévérance de la NASA, avec, entre autres, une participation française, une participation toulousaine, s'est posé sur Mars après 7 mois de voyage et 56 millions de kilomètres. Il n'y a pas que la poésie ou la musique pour nous faire rêver. Il y a la science. Mais justement, comment la science me fait-elle rêver ? Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Cette pensée de Pascal, qu'on trouve à la page 1113 de la Pléiade, Pascal du XVIIe siècle, n'est-elle pas le lien entre ce grand philosophe du XVIIe donc et le film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick au XXe siècle ? Le rapprochement pourrait paraître audacieux, au bout de plus de 3 siècles d'intervalle, Pascal et Kubrick vivent l'espace presque de la même façon. Ils y voient un mystère dont l'étymologie grecque, du mot mystère, se rapporte au mutisme, justement comme les silences éternels, d'où l'homme ne reçoit pas de réponse à ses questions existentielles. Il n'y trouve aucun repère fixe et sûr, bien qu'il en cherche désespérément. Plus que tout autre, Descartes, qui est du XVIIe, et au même siècle que Pascal donc, se rassure au contraire en pensant coloniser l'espace à grands frais de diagrammes, d'abscisses et d'ordonnées, d'équations de droite et de courbe, de géométrie analytique, etc. Pour lui, l'espace n'a pas de mystère, il est soumis à la géométrie qui donne à l'homme ses repères. Kant ira finalement plus loin, dit du 18e, lui, plus loin que Descartes, l'espace ne sera que subjectif pour Kant. À la différence de Descartes qui tend à confondre l'espace et les choses qui sont dans l'espace, Kant explique que l'espace n'est pas une chose dont on fait l'expérience. L'espace n'est rien. Il n'est même pas le vide, car le vide est dans l'espace. Ou plutôt, il est la forme a priori du sens externe, comme il dit, c'est-à-dire la manière qu'a la conscience de percevoir le monde, le filet qu'elle projette sur les choses pour les rassembler dans l'unité d'un même monde. Et il nous explique ça dans l'esthétique transcendantale, qui est l'un des chapitres de la critique de la raison pure en 1781. Kant reconnaît que l'altérité finalement ressurgit. Les choses en soi, telles qu'elles sont, restent définitivement autres, inconnaissables. Je ne connais que les phénomènes, ce qui apparaît, c'est-à-dire ma représentation des choses, filtrée par la subjectivité transcendantale, en l'occurrence par l'espace. L'espace, cette forme a priori du sens externe. Alors, pour Pascal, c'est très différent. L'altérité spatiale est irréductible. Aucun repérage géométrique. Le monde est une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part, dit-il, à la page 1105 de la Pléiade. Et Einstein ne le reniera pas. Pour Pascal, d'une part, il n'y a pas de point fixe et sûr. je le cite, quelques termes où nous pensions nous attacher et nous affermir. Il branle et nous quitte. Et si nous le suivons, il échappe. Il échappe à nos prises, nous glisse et fuit d'une fuite éternelle. D'un point de repère. Et d'autre part, Pascal ajoute aussitôt que l'homme est pourtant quête angoissée de cohérence et d'immuabilité contre cette altérité. Je le cite, « Nous brûlons du désir de trouver une assiette ferme. Mais tout notre fondement craque et la terre s'ouvre jusqu'aux abîmes », dit-il à la page 1109. On pourrait croire dès lors que cette altérité irréductible nous condamne à la seule angoisse de l'effroi. Ce serait sans compter sur la possible transvaluation, c'est-à-dire évaluer autrement, sur une autre disposition affective que le désir de repère fixe, et ce serait le désir de l'autre comme lieu, l'altérité comme lieu de perdition voulue et d'aventure enthousiaste. Je le cite. « Je lui veux peindre qu'il se perde dans ses merveilles aussi étonnantes dans leur petitesse que les autres par leur étendue. » Page 1107, toujours de la Pléiade. Voilà l'une des réponses paradoxales à la question pascalienne « Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini ?» La primauté, donc, pour Pascal, serait plutôt l'exaltation plutôt que l'angoisse. Mais répétons que l'angoisse de la spiritualité altérante n'a pas disparu pour autant. Elle est contemporaine d'une exaltation de cette spatialité altérante. Je cite « Il tremblera dans la vue de ses merveilles », toujours dans la Pléiade. Alors que Descartes pratique la rétention géométrique de l'espace pour le maîtriser dans son cogito, dans son « je pense » rationnel, Pascal s'ouvre, lui, à l'altérité spatiale pour se trouver en se perdant. La formule « se trouver en se perdant » est d'Emmanuel Mounier, alors lui, XXe siècle, dans son livre sur le personnalisme. Qu'est-ce que le personnalisme ? Telle est la transvaluation. Évaluer autrement l'altérité, la transvaluation de l'altérité maudite, l'effroi, en altérité bénie, l'émerveillement. La conversion de l'angoisse en exaltation du mystère des espaces infinis, infiniment grands ou infiniment petits. Au lieu de se protéger de l'effroi, du silence éternel de l'espace infini, Pascal prend le risque de s'aventurer délibérément dans une mystique, dans l'exaltation d'un don éperdu de soi au mystère de l'infini. À l'instar de saint Augustin cité par Roger Queillois, cherchant à cerner le sacré universel, Pascal est, je cite, « pris à la fois d'un frisson d'horreur et d'un élan d'amour » et en latin, à partir de saint Augustin, « et in oresco » l'effroi, « et in ardesco » l'exaltation. On trouve ça dans « L'homme et le sacré » de Roger Queillois. Continuons avec les langues étrangères. « Todo y nada »,« tout est rien », c'est de saint Jean de la Croix, c'est très connu, 16e siècle. Mais aussi le feu du mémorial de Pascal, l'opuscule mystique qu'il portait toujours cousu dans son manteau. C'est encore plus près de nous l'expérience mystique de la messe sur le monde d'un Teilhard de Chardin qui participe à la transfiguration divine de l'univers, je le cite, « l'effroi qui me saisit se mue en une joie débordante d'être transformée en vous. » Page 29 de l'hymne à l'univers aux éditions du Seuil. Et la transvaluation de l'espace de l'espace spirituel et non pas intellectuel. L'homme sera plus disposé à contempler ces merveilles en silence qu'à les chercher avec présomption. Le mystère me ravit au sens double du terme, au sens où l'autre me capte, hein, c'est un rapt, me fascine comme dans un rapt où je m'abandonne, et au sens où ce risque et cette aventure me comblent de ravissement. « 2001, l'Odyssée de l'espace », le film de Stanley Kubrick, « Metro Gonwin Meyer, 1968 », ne reprend-il pas cette dualité quant à l'espace Descartes et ou Pascal ? Ce sera Pascal. Son univers de technologie de pointe accentue, c'est vrai, davantage la culture scientifique cartésienne. Mais de façon assez inattendue, une certaine mystique pascalienne va l'emporter. Évidemment, l'objet du film est l'espace, un espace d'abord scientifiquement et techniquement maîtrisé par IBM et la NASA, qui sont partie prenante de la production. Mais le film commence par une sorte d'hominisation de primates supérieurs. Au sein du désordre cruel de l'univers sans conscience, un parallélépipède rectangle parfait, massif, sombre, homogène et métallique surgit du sol sous le regard effaré des singes. Le film n'en dit pas plus et passe aussitôt à une station orbitale de 2001, il aurait pu dire 3001 parce que on en était loin en 2001. L'intelligence est apparue avec la manifestation de la géométrie pure face au désordre planétaire, espace repère. Cependant, cette manifestation reste mystérieuse. Celle-ci, toujours sous la forme de ce monolithe, va réapparaître de plus en plus souvent, d'abord enfouie dans le sol lunaire, ensuite, selon un sous-titrage dans le film, autour de Jupiter et au-delà de l'infini. Dans tous les cas, cet inconnu géométral attire physiquement et fascine le héros qui vit effroi et émerveillement, les deux en même temps. Le sacré surgit dans tous les coins de l'espace infini. L'Odyssée s'engage. Bien sûr, il y a d'abord la recherche avec présomption. Les hommes veulent savoir, mais cette connaissance impossible va rapidement apparaître comme une profanation du mystère qui ne se laisse pas violer. La science et la technique échouent, et Carl, l'ordinateur de bord, l'intelligence artificielle avant que l'expression soit devenue populaire, l'ordinateur de bord donc du vaisseau spatial des héros va dominer l'homme avant d'être neutralisé à grands frais. L'Odyssée, dès lors, est une aventure spirituelle où pendant de longues séquences, une aspiration effrénée de l'homme, effrénée de l'espace, de l'homme par l'espace, s'emballe dans l'envoûtement d'une symphonie de couleurs, d'une symphonie chromatique vertigineuse, sans contenu chausal, il n'y a pas de chose fixe. In oresco et in ardesco, todo in ada, et le feu de Pascal. Cette mystique intersidérale succède au face-à-face magnétique et silencieux du vaisseau humain et du monolithe qui plane sur le théum de l'espace. Le théum, c'est l'informe et l'obscur d'avant la création. On trouve ça dans le premier livre de la Bible, la Genèse.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.